Chapitre 2. L'inspecteur Lorraine Serenac a commencé par délimiter un périmètre de quelques mètres autour du cadavre, en fixant une large bande plastique orange aux branches des arbres au-dessus du ruisseau. La scène du crime laisse présager une enquête compliquée. Serenac se rassure en se disant qu'il a eu le bon réflexe quand le téléphone du commissariat de Vernon a sonné. Venir avec trois autres collègues. Dans l'immédiat, la principale mission du premier, l'agent Louvel, est de garder à distance les badauds qui commencent à s'entasser le long du rue. C'en est même incroyable. Le véhicule de police a traversé un village désert, et en quelques minutes, on dirait que tous les habitants convergent en direction du lieu du meurtre. Car il s'agit bien d'un meurtre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 3 ans d'école de police à Toulouse pour en être certain. Serenac observe à nouveau la plaie ouverte dans le cœur, le sommet du crâne ouvert et la tête plongée dans l'eau. L'agent Maury, à ce qu'il paraît le spécialiste scientifique le plus calé du commissariat de Vernon, est occupé à repérer avec précaution les traces de pas dans la terre, juste devant le cadavre, et à mouler des empreintes avec du plâtre à prise rapide. C'est Serenac qui lui a donné l'ordre d'immortaliser le sol boueux avant même de s'avancer pour examiner le cadavre. Le type est mort. Il ne va pas sauver, pas même ressusciter. Pas question de piétiner la scène de crime avant d'avoir tout en photo et en sachet. L'inspecteur Silvio Benavides surgit sur le pont. Il reprend son souffle. Quelques givernois s'écartent pour le laisser passer. Serenac lui a demandé de courir jusqu'au village de Giverny, juste au-dessus, avec à la main un cliché de la victime, afin de récupérer les premiers renseignements, voire d'identifier l'homme assassiné. L'inspecteur Serenac n'est pas en poste à Vernon depuis longtemps, mais il a vite compris que Silvio Benavides fait cela très bien, répondre à des ordres avec zèle, organiser les choses, archiver avec minutie. L'adjoint idéal, en quelque sorte. Benavides souffre peut-être d'un léger manque d'initiative. Et encore, Serenac a l'intuition qu'il s'agit plus d'un excès de timidité que d'un manque de compétence. Un type dévoué. Enfin, dévoué. Dévoué à son métier de flic. Parce qu'en réalité, Benavides doit prendre son supérieur hiérarchique, l'inspecteur Lorraine Serenac, tout fraîchement sorti de l'école de police de Toulouse, pour une sorte d'objet policier non identifié. Même si Serenac a été bombardé patron du commissariat de Vernon depuis 4 mois, sans même le grade de commissaire, peut-on prendre au sérieux, au nord de la Seine, un flic qui n'a pas 30 ans, qui parle aux truands comme aux collègues avec l'accent occitan et qui supervise déjà les scènes de crime avec un cynisme désabusé? Pas sûr, pense Serenac. Les gens sont tellement stressés ici. Pas que dans la police, partout. Encore pire ici, à Vernon, cette grande banlieue parisienne maquillée en Normandie. Il connaît la carte de sa circonscription. La frontière avec l'Île-de-France passe à Giverny, à quelques centaines de mètres de là, de l'autre côté du cours principal de la rivière. Mais ici, on est normand, pas parisien. Et on y tient. Une sorte de snobisme. Un type lui a dit sérieusement que la frontière de l'Epte, ce petit ruisseau ridicule entre la France et le royaume anglo-normand, au cours de l'histoire, a fait plus de morts que la Meuse ou le Rhin. Les cons. Inspecteur, appelle-moi Lorenz, bordel. Je t'ai déjà dit. Silvio Benavides hésite. L'inspecteur Serenac lui lance ça devant les agents Louvel et Maury. Une quinzaine de badauds et un cadavre qui baigne dans son sang. Comme si c'était le moment de discuter sur le tutoiement.
Bon, patron, je crois qu'il va falloir avancer sur des œufs. Je n'ai pas eu de mal à identifier la victime. Tout le monde la connaît ici. C'est une huile, à ce qu'il paraît. Jérôme Morval, un chirurgien ophtalmologue connu. Son cabinet est situé avenue Prudhon à Paris, dans le 16e. Il habite l'une des plus belles maisons du village, 71 rue Claude Monet. Il habitait, précise Serenac.
Silvio encaisse. il traîne la figure d'un type qui aurait tiré la conscription pour le front russe. D'un fonctionnaire muté chez les ch'tis. D'un flic nommé en Normandie. L'image fait sourire Sérénac. C'est lui, pas son adjoint, qui devrait faire la gueule.
« Ok, Silvio, » fait Sérénac.
« Bon boulot. Pas la peine de stresser pour l'instant, on affinera le CV plus tard. »
Sérénac décroche le ruban orange.
« Ludo, c'est bon pour les empreintes ? On peut approcher sans mettre les patins ?»
Ludovic Maury confirme. Le policier s'éloigne en portant diverses moulures de plâtre pendant que l'inspecteur Sérénac enfonce ses pieds dans la boue des berges du ruisseau. Il s'accroche d'une main à la branche de frêne la plus proche et de l'autre désigne le corps inerte.
« Approche, Silvio. Regarde. Tu ne le trouves pas curieux, le mode opératoire de ce crime ?»
Benavidez s'avance. Louvel et Maury se retournent également comme s'ils assistaient à l'examen d'admission de leur supérieur hiérarchique.
« Les garçons, observez la plaie, là, à travers la veste. Visiblement, Morval a été tué par une arme tranchante. Un couteau ou quelque chose de ressemblant. Plein cœur, sans sec. Même sans l'avis des légistes, on peut émettre l'hypothèse que c'est la cause de la mort. Sauf que si on détaille les traces dans la boue, on s'aperçoit que le corps a été traîné sur quelques mètres, jusqu'au bord de l'eau. Pourquoi se donner cette peine ? Pourquoi déplacer un cadavre ? Ensuite, le meurtrier a attrapé une pierre ou un autre objet lourd de même taille et s'est donné la peine de lui écraser le haut du crâne et la tempe. Là encore, pour quelle fichue raison ?
Louvel lève presque une main timide.
Morval n'était peut-être pas mort ?
Mouais, fait la voix chantante de Sérénac. Vu la taille de la plaie au cœur, je n'y crois pas beaucoup. Et si Morval vivait encore, pourquoi ne pas planter un second coup de couteau sur place ? Pourquoi le transporter, puis lui défoncer le crâne ?
Silvio Benavidez ne dit rien. Ludovic Maury observe le site. Il y a une pierre au bord du rue, de la taille d'un gros ballon de football, couverte de sang. Il a prélevé à sa surface tous les échantillons possibles. Il tente une réponse.
Parce qu'il y avait une pierre à proximité, il a pris l'arme qu'il avait sous la main.
Les yeux de Sérénac brillent.
Là, je ne suis pas d'accord avec toi, Ludo. Regardez bien la scène, les garçons. Il y a plus étrange encore. Regardez le ruisseau sur 20 mètres. Qu'est-ce que vous voyez ?
L'inspecteur Benavidez et les deux agents suivent les berges des yeux sans comprendre où Sérénac veut en venir.
« Il n'y a aucune pierre !» triomphe Sérénac. « On ne trouve pas une seule autre pierre sur toute la longueur de la rivière. Et si on l'observe d'un peu près, cette pierre, il ne fait aucun doute qu'elle a été transportée elle aussi. Pas de terre sèche collée à la roche, l'herbe écrasée sous elle est fraîche. Qu'est-ce qu'elle fiche là alors, cette pierre providentielle ? L'assassin l'a apportée là, elle aussi, ça crève les yeux. »
L'agent Louvel tente de faire reculer les Givernois vers la rive droite du Ru, devant le pont côté village. Le public ne semble pas déranger Sérénac.
Les garçons, continue l'inspecteur, si je résume, nous sommes face au cas de figure suivant. Jérôme Morval est poignardé sur le chemin, un coup sans doute mortel. Puis, son assassin le traîne jusqu'à la rivière, 6 mètres plus loin. Ensuite, comme c'est un perfectionniste, il va dénicher une pierre dans les environs, un truc qui doit peser pas loin de 20 kilos, et revient écraser la cervelle de Morval. Et ce n'est pas encore fini. Observez la position du corps dans le ruisseau. La tête est presque entièrement noyée. Elle vous semble naturelle, cette position ?
Vous venez de le dire, patron, répond Maury presque agacé. L'assassin a frappé Morval avec la pierre au bord de l'eau, puis la victime glisse jusqu'au ruisseau.
Comme par hasard, ironise l'inspecteur Sérénac. Un coup sur le crâne et la tête de Morval se retrouve au fond de l'eau. Non, les gars, je suis prêt à prendre les paris avec vous. Prenez la pierre et ratatinez la cervelle de Morval, là, sur la berge. Pas une fois sur mille, la tête du cadavre ne se retrouvera au fond de l'eau, impeccablement immergée dans 10 centimètres de profondeur. Messieurs, je crois que la solution est bien plus simple. On a affaire, en quelque sorte, à un triple meurtre sur la même personne. 1. Je te bute. 2. Je te fracasse la tête. 3. Je te noie dans l'eau. Un rictus s'accroche à ses lèvres. On a affaire à un motivé, un obstiné très très en colère contre Jérôme Morval.
Lorraine Serenac se retourne vers Silvio Benavides en souriant.
Vouloir le tuer 3 fois, c'est pas très sympa pour notre ophtalmo, mais à la limite, ça vaut mieux que tuer 1 fois 3 personnes différentes, non ?
Serenac cligne de l'œil vers un inspecteur Benavides de plus en plus gêné.
Je ne voudrais pas semer la panique dans le village, continue-t-il. Mais rien dans cette scène de crime ne me semble être dû au hasard. Je ne sais pas pourquoi, on dirait presque une composition, un tableau mis en scène. Comme si chaque détail avait été choisi. Ce lieu précis, à Giverny. Le déroulement des événements, le couteau, la pierre, la noyade.
Une vengeance ? Suggère Benavides.
Une sorte de rituel, c'est ce que vous pensez ?
J'en sais rien, répond Serenac.
On verra bien. Pour l'instant, ça semble n'avoir aucun sens. Mais ce qui est certain, c'est que cela en a un pour l'assassin.
Louvel repousse mollement les badauds sur le pont. Silvio Benavides demeure toujours muet, concentré, comme s'il cherchait à faire le tri dans le flot de paroles de Serenac entre le bon sens et la provocation. Soudain, une ombre brune surgit du bosquet de peupliers de la prairie, passe sous le ruban orange et piétine la boue des berges. L'agent Maury tente sans succès de la retenir. Un berger allemand. Le chien, joyeux, se frotte au jean de Serenac.
« Tiens !» fait l'inspecteur. « Notre premier témoin spontané. »
Il se retourne vers les Givernois sur le pont.
« Quelqu'un connaît ce chien ?»«
Oui !»
répond sans hésiter un type assez âgé en tenue de peintre, pantalon de velours et veste en tweed.
« C'est Neptune, le chien du village. Tout le monde le croise ici. Il court après les gosses du village, les touristes. Il fait partie du paysage, pour ainsi dire.
« Viens là, mon gros !» fait Serenac en s'accroupissant à la hauteur de Neptune. « Alors, c'est toi notre premier témoin ?
Dis-moi, tu l'as vu l'assassin ? Tu le connais ? Tu passeras me voir tout à l'heure pour la déposition ? Là, on a encore un peu de travail. »
L'inspecteur brise une branche de saule et la lance quelques mètres plus loin. Neptune répond au jeu, s'éloigne, revient. Silvio Benavides observe avec étonnement le manège de son supérieur. Enfin, Serenac se relève. Il prend un long moment pour détailler les alentours. Le lavoir en brique et torchis, juste en face du rue, le pont sur le ruisseau, et juste derrière, cette étrange bâtisse biscornue à colombage, dominée par une sorte de tour de 4 étages, dont on peut lire le nom gravé sur le mur, « Moulin des Chenevières ». « Il ne faudra rien négliger », note-t-il dans un coin de sa tête. « On devra faire le tour de tous les témoins potentiels, même si le meurtre a sans doute été commis aux alentours de 6 heures du matin. »
« Michel, fais reculer le public. » Ludo, file-moi des gants en plastique, on va lui faire les poches à notre ophtalmo, quitte à se mouiller les pieds si on ne veut pas déplacer le corps.
Serenac fait valser ses baskets, ses chaussettes, relève son jean jusqu'à mi-mollet, enfile les gants que lui tend l'agent Maury et descend pieds nus dans le ruisseau. Sa main gauche maintient l'équilibre du corps de Morval pendant que l'autre fouille dans sa veste. Il extirpe un portefeuille de cuir qu'il tend à Benavides. Son adjoint l'ouvre et vérifie les pièces d'identité. Aucun doute, c'est bien Jérôme Morval. La main continue d'explorer les poches du cadavre. Mouchoir, clé de voiture, tout passe de main gantée en main gantée et finit dans des sachets transparents.
Bordel, qu'est-ce que...
Les doigts de Serenac extirpent de la poche extérieure de la veste du cadavre un carton froissé. L'inspecteur baisse les yeux. Il s'agit d'une simple carte postale. L'illustration représente les nymphéas de Monet. Une étude en bleu. Une reproduction comme il s'en vend des millions dans le monde. Sérénac retourne la carte. Le texte est court, inscrit en lettres d'imprimerie. 11 ans. Bon anniversaire. Juste en dessous de ces quatre mots, une mince bande de papier a été découpée puis collée sur la carte. 10 mots cette fois. Le crime de rêver, je consens qu'on l'instaure.
Bordel !
L'eau du ruisseau glace soudain les chevilles de l'inspecteur, comme 2 menottes d'acier. Sérénac crie aux badauds installés en face, tassés autour du lavoir normand comme s'ils attendaient le bus.
« Il avait des gosses, Morval ? Disons, un gosse de 11 ans ?»
Le peintre en velours et tweed est à nouveau le plus rapide à répondre.
« Non, monsieur le commissaire, certainement pas. »«
Bordel ! »
La carte d'anniversaire passe dans les mains de l'inspecteur Benavides. Sérénac lève la tête, observe. Le lavoir, le pont, le moulin, le village de Giverny qui se réveille, les jardins de Monet qu'on devine un peu plus loin, la prairie et les peupliers. Les nuages qui s'accrochent aux coteaux boisés. Ces 10 mots qui s'accrochent à ses pensées. Le crime de rêver, je consens qu'on l'instaure. Il a soudain la conviction que quelque chose n'est pas à sa place dans ce paysage de cartes postales impressionnistes.